9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Pedro Winter.
Philippe Vandel, bonjour.
Vous êtes DJ, connu sous le nom de Buzzy P, c'est comme ça qu'on prononce? Comment on prononce?
C'est très, votre anglais est parfait, cher Philippe.
Vous jouez dans le monde entier, mais vous êtes surtout connu comme le patron et fondateur du label Headbanger. Et on trouve dessus Justice, Mister Oiseau, Cassius, Breakbot, etc. Et comme manager de Daft Punk. Un mot sur le titre qu'on vient d'entendre, Mid, artiste Headbanger.
Nouvelle signature du label, jeune artiste électro-pop qui nous a rejoint il y a 2 ans. Et c'est un bonheur de travailler avec lui. Et son premier album arrivera en tout début d'année 2021.
Face à vous, Alexis Bernier, bonjour.
Bonjour.
Face à vous, géographiquement, c'est pas vous êtes opposé, c'est le Covid. Vous êtes journaliste, vous venez nous présenter un énorme pavé illustré, 250 pages, ça s'appelle Electrorama, c'est sous-titré 30 ans de musique électronique française, ce qu'on appelle dans le monde entier la French Touch. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Oh, elle a un son, elle a permis à la France de ne plus avoir de complexe vis-à-vis de sa musique.
Ouais.
Je crois que c'est ça, c'est ce qu'on rappelle Laurent Garnier
dans la préface
qu'il nous
a fait avant,
pour le livre.
Ils avaient sorti un titre avec son label F Communication, je cite de mémoire,
et ils faisaient croire de la gueule de
que
gueule,
ça sortait d'un sous-label de Détroit aux États-Unis pour que ça puisse passer.
Voilà, parce que la musique française était très très mal perçue, les Anglais nous regardaient comme des fous. Je crois que Pedro, tu as dû connaître cette période encore où effectivement on était gardé avec beaucoup de mépris, et puis ça a évolué grâce à des artistes. Moi, je me souviens très bien de Motorbass, qui a été vraiment un des.
Ah
avec
oui.
Philippe Zdar et Étienne Crécy, qui a été un des premiers groupes dont le disque est sorti et a été chroniqué très chaleureusement dans la presse anglaise. Ensuite, il y a eu évidemment les Daft Punk, mais Laurent Garnier avait très vite, très tôt fait le travail en étant DJ à la Hacienda. Donc vraiment, ça a permis toute cette période de décomplexer la musique française, et aujourd'hui, on a des bureaux export partout dans les labels, et Aya Nakamura se vend dans le monde entier.
Avant qu'on en parle, on va entendre des sons, on va entendre ce que fait Pedro Winter dans le secret de ses studios. D'abord Daft Punk, dont vous avez été le manager de 96 à 2008. Je pense que tout le monde connaît ça. Pourquoi vous avez arrêté une collaboration aussi fructueuse ?
C'est un choix assez naturel et spontané. Vous savez, c'est un peu comme j'ai vécu ça un peu comme un ado qui, à un moment, à 18 ans, regarde ses parents. Il était peut-être temps d'aller vivre et découvrir d'autres aventures que sa chambre d'ado éternelle. Mais donc, ça s'est terminé pour écrire un autre chapitre qui est tout aussi beau avec Headbanger.
Autre chapitre, justement, on va entendre Justice. J'avais complètement oublié le son de la basse. Justice, vous occupez toujours d'eux ?
Oui, bien sûr, c'est une aventure qui a commencé en 2003, donc qui va souffler ses 18 ans l'année prochaine.
Vous auriez pu nous faire le coup de la chambre d'ado et bazarder tout ça.
Non, mais alors là, finalement, vu que j'ai le rôle, autant j'étais ado à l'époque des Daft, là, je suis un peu plus le papa avec tous les artistes du label Headbanger, donc... Prochain chapitre, le grand-père de je ne sais qui.
Alexis Bernier, quand on vous a demandé quel morceau pourrait résumer 30 ans d'électro à la française, vous avez choisi Jack in the Box de Laurent Garnier. C'est un titre qu'a sorti Pedro Winter sur son label. Son label, j'arrive à le dire, extrait. Alexis Bernier.
Tout simplement parce que c'est un titre qui rassemble deux grands courants de la scène électronique française. Ce que représente Laurent Garnier, qui, comme je le disais tout à l'heure, a vraiment été un des premiers ambassadeurs de la musique électronique française en tant que DJ à la Hacienda et partout dans le monde, et qui avait créé avec Eric Morens ce label qui s'appelle F Communication, qui est vraiment un des tout premiers labels électroniques en France. Et puis ce que représente Pedro, c'est-à-dire la French Touch qui arrivait de la génération, qui arrivait un tout petit peu après, avec un son un peu rock, comme on entendait Justice à l'instant. Pedro fait partie de ces gens qui ont permis à la scène électronique de sortir des clubs, de toucher un public bien plus large. Et quand ils ont fait ce morceau ensemble, je trouvais que c'était une belle association entre ces deux courants qui ont parfois été un peu antagonistes, mais pas vraiment beaucoup, et qui ont surtout beaucoup de choses à se dire.
Je dois dire, ce livre absolument formidable, ça raconte la petite histoire, ça raconte la grande histoire, c'est pour les puristes et les touristes. Si on n'y connaît rien, on va adorer. Si on connaît tout, on va adorer, on va découvrir des choses. Il y a une interview de Bob Sinclair sans langue de bois, il y a une interview croisée de Justice avec Daft Punk. Merci beaucoup Alexis Bernier, vous êtes le maître d'œuvre.
Et puis j'ai la prétention de dire que c'est un beau livre aussi. Avec
c'est un
photos.
Très très beau livre, c'est un beau cadeau de Noël, c'est ça que vous vouliez dire.
Voilà.
Écoutez, je le fais tout le temps, je vais le refaire. Ça vous tombe sous le pied, vous boitez pendant 2 mois.
Exactement.
Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, Pedro Winter.
Volontiers.
Le portrait inattendu de Pedro Winter, c'est avec Hélène Manarino. Juste après ça, en musique, j'adore.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Pedro Winter, qui est le créateur du label Headbanger et connu comme DJ sous le nom de Buzzy P. Moi, je savais ça, mais il y a plein de choses que j'ignorais. Justement, Hélène Manarino est là. Oula. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
J'aime bien ce oula.
Bonjour Pedro Winter.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Piu, votre surnom enfant, vous êtes l'homme le plus organisé, allez, on peut dire du monde, un spécialiste. L'homme qui envoie le plus d'emails en une matinée. Certains pensent que vous devriez même être dans le Guinness Book pour ça. Une ponctualité hors du commun, rythmée sur le combo parfait, bébé plus école. Oui, vous avez une petite fille de 7 ans et une autre de 8 mois. Alors Pedro Winter, on ne va pas bousculer cette organisation ce matin. On va ouvrir vos tiroirs de souvenirs et les refermer un à un pour ne pas tout déranger.
Oula.
Restons sur le tiroir de la paternité.
Une chanson douce que me chantait ma maman.
Une chanson douce, Henri Salvador. Cette chanson que vous chantez tous les soirs à la plus petite avant de lire Mortel Adèle à la grande. Une chanson douce qui est la première chanson que votre maman vous a chantée. Véritable Wonder Papa. Vous militez pour l'allongement du congé paternité.
Oui.
Pour en profiter, pour danser par exemple sur l'album d'Angèle avec votre fille. Oui, depuis que les boîtes de nuit sont fermées, vous dansez chez vous. Mais vous aimez aussi écouter ça avec elle.
Un jour j'irai sur la lune. Wouh ! Un jour j'irai.
Dites ce que c'est.
Big Flo et Oli.
Mais oui, la lune.
Mais oui.
Restons
c'est
sur l'enfance.
C'est bien le grand écart, Laurent Garnier, Big Flo et Oli.
C'est bien, ouais. Oui, c'est ça. C'est la richesse de la musique. Restons sur l'enfance. Passons à la vôtre, Pedro Winter. Les tiroirs ne sont pas loin, puisque votre âme d'enfant, vous l'avez gardée. La preuve, vous aimez régulièrement faire le sourire chocolat. Gâteau, chocolat étalé sur les dents, et vous souriez.
C'est avec mon meilleur pote, ouais.
Vous pouvez...
C'est dégueulasse, normalement on arrête à 8 ans ça.
Eh ben ouais, 45, je continue quoi.
Vous pouvez vous nourrir de réglisse uniquement, mais quel enfant étiez-vous justement, on va en parler, vous vouliez être avocat. Vous vous imaginiez aussi parfois dans la peau de vos personnages préférés, Inspecteur Gadget, puis vos dessins animés, Les Cités d'Or, Ulysse 31, passionné de Dorothée, Récréa 2, Sauvé par le Gong. Bref, tous ces programmes, vous les dévoriez du haut de votre mezzanine où il y avait votre mini-télé.
Ouais, oh là. Voilà. Mais quoi, vous avez des photos?
Ouais.
Non.
Bon, c'est la radio, vous le voyez pas, mais...
Non, non, on peut nous voir sur europe1.fr.
Vous collectionniez les Playmobil, les boules de neige et les canettes de coca que vous rapportiez de vos voyages dans le monde entier. Grand voyageur aussi...
Vous vous moquez,
comment? Non, mais ça fait un peu collègue d'ado quand même, non?
Dans les
mais
années
oui,
80...
on est sur l'enfance. Ouais. Hein.
Attendez, avant que tous ces trucs, des collaborations, tout ça, c'était les prémices de... De ça.
Alors, Pedro Winter, l'âme d'un créatif depuis toujours, vous organisiez des concerts dans votre chambre, vous annonciez l'heure et toute la famille était présente devant la chambre pour rentrer et oui, pour voir le spectacle. Alors, il y a des tiroirs qu'on n'a pas envie d'ouvrir, mais bon, faisons-le quand même, celui de vos bêtises. Vous avez cassé une chaise sur la tête de votre frère.
Il l'avait cherché.
Si on voulait vous punir, on pouvait vous forcer à manger de la mangue, de la coriandre ou encore du kiwi. Eh oui, vous détestiez ça.
Ouais, toujours.
Et puis, il y a cette grande boîte à souvenirs de l'école avec Hermano Raymond, votre professeur d'espagnol qui mettait des Birkenstocks même en hiver.
Oui, Hermano, ouais. Hermano Ramon.
Ouais. Raymond, ouais, pardon, moi je l'ai dit, Hermano
ouais.
Raymond.
Ah ouais.
C'est pour ça que vous mettez des après-ski maintenant?
C'est ça.
Les pompes de Pedro Winter, c'est quelque chose, il est entré dans le studio, je pensais pas que c'était possible.
Vous avez toujours été passionné. Alors Pedro Winter, revenons à nos tiroirs plus actuels avec le plus important sûrement votre famille, les croissants que vous allez chercher pour tout le monde. Et tous les week-ends, ces pancakes imbibés de sirop d'érable. Le tiroir qui n'arrive pas à s'ouvrir en revanche, c'est celui du bricolage. Vous aimeriez être bricoleur parce que vous êtes très fier de votre boîte à outils. Mais vous ne vous en servez pas trop. Un petit peu quand même. Et puis, vous êtes plus fidèle avec vos cours de boxe thaïlandaise, avec l'un des membres du groupe Justice. Alors, Pedro Winter, finalement, tous ces tiroirs, on a un peu envie de les laisser ouverts, surtout ceux de votre musique et de vos artistes, avec la plupart des gens qui n'ont jamais eu envie de les refermer. Au contraire, ils grandissent avec.
Magnifique, merci beaucoup Hélène.
Merci Hélène. Tout est vrai, hein, ouais. Tout est bien...
Et vous êtes reconnue, mais on a l'impression que vous n'avez pas beaucoup changé depuis l'enfance et l'adolescence.
Non, c'est ça. Et on m'a souvent souligné cette spontanéité et naïveté. Moi, j'aime bien un peu la naïveté. C'est une notion, en tout cas, que je trouve assez précieuse. Et donc, ouais, moi, je suis excité d'être avec vous, de vous rencontrer, de vous écouter, de partager la musique et ma passion avec d'autres gens, justement, sortir un peu de ma zone de confort.
Magnifique. Et puis, l'émission continue. On va parler cuisine, on va parler de mangue spécialement. Non, je déconne. Dans un instant, notre premier indispensable, Mathieu Charrier, qui va nous proposer une sélection de bandes dessinées pour petits et grands. Un grand merci Hélène Manarino.
Merci
un grand
Hélène.
Bravo.
Avec
à demain.
Avec plaisir, à demain.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Pedro Winter, DJ, mais surtout fondateur et patron du label Headbanger, vous êtes très sensible au graphisme. Et j'ai lu quelque part que beaucoup des artistes que vous aviez dans le label étaient également des graphistes.
Bah, je pense que la majorité des artistes du label, Breakboat, Justice, Somi qui fait les pochettes, sont tous sortis à peu près de la même école, effectivement, soit de graphisme ou de 3D. Donc ouais, c'est quelque chose, de passer de la palette graphique à la musique.
C'est un hasard ou ça veut dire quelque chose ?
Je pense que ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que la musique, elle se dessine aussi un petit peu avec des petits carrés, comme un logiciel. Comme un peu un Photoshop. Donc ouais, je pense que ça mérite qu'on s'y penche un jour entre 23h et 4h du matin.
Et Headbanger, d'ailleurs, c'est une maison d'édition.
Headbangers Publishing, une maison d'édition indépendante. Je publie des bouquins d'art, de photos, de graphisme, d'artistes pas encore connus. Et c'est très excitant. Et tout à l'heure, vous faisiez la blague des bouquins très lourds. Et ben, j'ai ça, j'ai des cartons partout dans mon bureau. Comme ça, j'essaye de distiller les photos de François Prost, les dessins de Stéphane Manel, à droite à gauche.
Il y a du lourd, Mathieu Charrier.
Bien sûr,
au sens
regardez,
propre.
Je vous ai amené toute la pile.
Mathieu Charrier qui est arrivé avec 4 kilos de bouquins. C'est vos coups de cœur BD de la semaine à placer sous le sapin. Et vous commencez avec le deuxième tome d'une saga attendue. Enfin, c'est une saga, deuxième tome.
Très
il faut
attendu,
flinguer
si.
Ramirez. Ah ouais. Non, c'est le mot saga, c'est pas tout à fait une saga.
C'est vous qui l'avez rajouté.
Voilà, exactement, je le regrette.
Rien que pour le titre, il faut flinguer Ramirez, il faut l'acheter. Je vous explique. Ramirez, il est muet, réparateur d'aspirateurs dans une société au fin fond de l'Arizona qui s'appelle Falcon City. On n'est pas loin de la frontière mexicaine. Le nom de cette société, c'est la Robotop. Sauf qu'un beau jour, vous avez deux mafieux mexicains, justement, qui viennent faire réparer leur aspirateur et qui sont persuadés de reconnaître en lui un tueur à gages que leur boss traque depuis des mois. C'est décidé, il faut donc flinguer Ramirez, d'où le titre de la bande dessinée. Alors vous ajoutez à cela que notre homme est accusé d'avoir organisé un attentat en pleine conférence de presse de présentation du nouveau modèle de la Robotop qui s'appelle le vacuumiseur 2000, et vous avez le décor de fond du tome 1 d'Il faut flinguer Ramirez. On le retrouve donc au début du tome 2, il a pris la fuite avec deux jeunes femmes cambrioleuses complètement déjantées. Voilà tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier exemplaire d'Il faut flinguer Ramirez. Ça avait été tiré à 5000 exemplaires, ils en ont vendu plus de 100 000. Ouh. Avec ce personnage principal, muet donc, écoutez Nicolas Pétrimo, l'auteur.
C'est pour faire parler du coup tous les autres. C'est un peu une énigme aussi mon personnage. Il y a la trame principale qui est cette chasse à l'homme, ce type qui est traqué, qui il est vraiment, est-ce que c'est un tueur de sang-froid, est-ce que c'est un gars lambda ou est-ce qu'il cache autre chose. On me demande souvent pour l'aspirateur, mais il ne faut pas aller chercher très loin, c'est juste que le mien était en panne.
Voilà, comme quoi ça tient un peu de choses, un succès. Ce qui est génial dans l'album, c'est l'histoire, je vous l'ai raconté, le dessin qui fait penser presque à des images réelles. On a vraiment l'impression de dérouler un film, c'est un mix de western, de road movie, de polar, et vous avez des fausses pubs aussi qui viennent s'intercaler au milieu. C'est très drôle, donc Il faut flinguer Ramirez, tome 2. Le 1 était sorti il y a 2-3 ans, si vous ne l'avez pas lu, vous trouvez ça chez Glénat.
Et votre deuxième choix de la semaine, Mathieu, se nomme L'Hyper-Rêve.
Alors ça, c'est la nouvelle BD de Marc-Antoine Mathieu, dont
je l'adore,
déjà parlé ici, qui aime tordre le 9e art dans tous les sens. Il avait fait une super BD qui s'appelle Dieu en personne, dans laquelle il imaginait l'arrivée de Dieu sur Terre. Tout le monde était très remonté contre lui. Il avait fait 3 secondes aussi, dans laquelle il disséquait la vie de la lumière pendant 3 secondes. Elle parcourt, figurez-vous, 300 000 km, donc il a le temps de s'en passer des choses, c'est formidable. Et donc là, le revoilà avec L'Hyper-Rêve, il reprend son personnage fétiche, Jules Corentin Hackefack, c'est le 7e tome. Et figurez-vous qu'on retrouve ce homme en plein rêve, sauf que ce rêve va entrer en collision avec le rêve de son voisins, vous imaginez, vont se retrouver tous les deux prisonniers de leur rêve dans une sorte d'infini. Je vous en dis pas plus, il aime l'absurde, l'onirique, qui varie les formes. Voilà, notre invité est en train de dérouler les cases parce que vous avez des pages de différentes tailles, des dessins de différentes tailles. C'est formidable, Marc-Antoine Mathieu. En général, c'est publié chez Delcourt et franchement, c'est original. Vous pouvez à peu près toutes les acheter, vous serez jamais déçus. D'un mot, je voulais aussi vous parler de, peut-être vous connaissez, Philippe, La fièvre d'Urbicande, qui est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée.
Ah, je connais Schwitten et Peters en revanche.
Exactement, c'est le début de toute leur saga là, pour le coup, sur les cités obscures. Ce livre, il avait eu en 85 le Grand Prix à Angoulême, sauf qu'à l'époque, il avait été dessiné en noir et blanc, parce que Casterman, quand vous faisiez du 48 pages, c'est-à-dire style Tintin, Astérix, vous pouviez faire de la couleur, mais dès que vous dépassiez 48 pages, à l'époque, c'était obligatoirement du noir et blanc. Les auteurs, ils avaient été toujours très frustrés que leur album se soit fait en noir et blanc. Ils ont profité du premier confinement pour le coloriser, puisque ça y est, aujourd'hui, vous pouvez faire plus de 48 pages en couleur, et ça vient de sortir, donc c'est formidable. Là aussi, La fièvre d'Urbicande, c'est chez Casterman. Pour Noël, vous êtes sûr de faire plaisir.
Et pour terminer, Mathieu, un conseil de livre pour enfants.
Ben oui, parce qu'on parle jamais de livres pour nos enfants. Alors je me suis dit, tiens, j'ai reçu ça l'autre jour, je les ai montrés à ma fille de 2 ans et demi, elle a tellement adoré que je me suis dit, il faut que j'en dise un mot chez Philippe. Ça s'appelle Lis et l'eau, c'est des histoires pour les 3-6 ans, autour de Noël, de la neige, des déguisements, mais vous avez surtout un graphisme que je trouve assez joli. Et en plus, il y a l'histoire dans l'histoire, parce que c'est signé de Mélissa Pigeois, qui petite faisait des petits dessins pour sa sœur qui s'appelle Eva. Elle les a graffés ensemble pour faire des petits livres. Quelques années plus tard, elle est devenue illustratrice et sa sœur est pédopsychiatre. Donc ensemble, elles écrivent. La sœur relit et dit « Oui, ça c'est bon pour nos gamins, tu peux le mettre dans tes livres. » Elle, elle dessine. Et franchement, c'est une super collection. Lielo, là j'ai Lielo, Fête Noël, Lielo à la neige. C'est chez GM Éditions. Là aussi pour Noël, franchement foncé.
Merci beaucoup Mathieu Charrier. Réaction Pedro Winter, qu'est-ce qui vous intéresse?
Lielo, je crois que ça m'a porté. Je crois que ça m'a porté. Non, je suis fasciné par les gens comme ça, passionnés de bande dessinée. Moi, je suis resté bloqué à Franck Margerin.
Ce qui est déjà bien.
C'était bien.
Non, qui est plus que bien. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Franck, Lucien en rêve, ça serait pas mal. Lucien et sa bande, Ricky en rêve parti.
Et ça peut même s'écrire de deux façons, Lucien en rêve. Merci beaucoup, pardon.
Avec plaisir.
Mathieu Charrier, dans un instant, notre deuxième indispensable. On ne quitte pas les albums, on ne quitte pas la BD. Une sélection spéciale, super. Super-héros comics, mais d'abord musique, Noé Préchoff.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Pedro Winter et Clément Le Saff, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Clément, aujourd'hui vous nous présentez un de vos coups de cœur de l'année. C'est un comics, une BD de super-héros.
Oui, et pas n'importe lesquels, les X-Men, groupe de mutants dirigé par le professeur Xavier. Alors dedans, on retrouve parmi les plus célèbres Wolverine, Cyclope, Tornade, Magneto et plein d'autres encore. Un groupe qui a été créé en 1963 et qui a été relancé par Marvel l'an dernier dans une œuvre qui, il faut le dire, est assez révolutionnaire. Ça s'appelle House of X, Powers of X et Dawn of X. En fait, ce sont trois comics qui s'entremêlent et qui sont publiés en France en ce moment.
Dis donc ce mot, qu'est-ce que ça a de révolutionnaire?
Déjà, il y a le fond. Jusqu'ici, la trame principale des X-Men tournait autour d'un concept politique, l'intégration des minorités. D'un côté, vous aviez le professeur Xavier présenté comme le héros qui plaide pour la collaboration avec les humains, et de l'autre, Magneto qui méprise les humains et veut les dominer. Et chacun, en fait, voit ce qu'il veut dans ce conflit. C'est ça l'intérêt des X-Men. Philippe, vous aviez reçu l'an dernier une fan des X-Men dans ce studio, justement la chanteuse Imani, et voilà ce qu'elle en disait.
J'adore les X-Men, parce qu'une fois on m'a expliqué que X-Men, c'était, quand ça a été écrit, c'était à poser la vision de Martin Luther King et de Malcolm X. C'est-à-dire que Professeur Xavier, il est censé être Martin Luther King, et Magneto, c'est Malcolm X. Donc c'était absolument la vision des mouvements civiques noirs américains. Donc voilà, ça m'intéresse.
Et donc, ce qu'on comprend à travers ça, c'est que les X-Men, c'est éminemment politique. Et pendant plus de 50 ans, cette métaphore de l'intégration, elle a nourri les comics et surtout les films. Il y en a eu 13 au cinéma quand même depuis l'an 2000. Forcément, ça a fini par user peu la recette. Alors pour les relancer, Marvel a confié les rênes des mutants au scénariste Jonathan Hickman et il a tout fait sauter. Exit la vieille lutte sur le modèle d'intégration dans House of X, donc ce comics. Xavier et Magneto s'unissent avec un parti pris très radical. Ils créent une nation mutante indépendante sur une île pour tous les mutants. Et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde.
Donc, adieu l'idéal d'intégration, si j'ai bien suivi.
Oui, c'est clairement un constat d'échec. Alors, je ne vais pas en dire trop sur le scénario qui est vraiment très profond. Il y a beaucoup de rebondissements, mais ça surprend énormément. Les super-héros classiques, d'habitude, ils sont rassembleurs politiquement corrects. Il faut plaire à tout le monde. Dans House of X, c'est le contraire. Jonathan Hickman a donc fait preuve d'astuce pour ne pas trop quand même déboussoler les fans.
J'écris des histoires totalement nouvelles, mais qui ressemblent aux anciennes. C'est très délicat. On met en place des choses qui vont vous faire penser aux histoires traditionnelles des X-Men, puis on prend un virage par-ci, un virage par-là, et finalement, on arrive à renouveler ces histoires.
Et puis pour pas déboussoler les fans, pour pas déboussoler le lecteur, il y a les nombreuses vies de Moira X. Il y a plein de schémas et de dessins.
Absolument.
Pour comprendre l'histoire
entre
qui est totalement
chaque chapitre, il y a des explications de
flamboyantes
de tout le lore, ce qu'on appelle le lore, en fait, tout le background de l'histoire. Donc on comprend, il est question de mutants, évidemment, c'est les X-Men, mais ça parle avant tout de notre monde. Alors c'est, il est par exemple question de politique internationale, de diplomatie au 21e siècle, de la notion de communauté. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une communauté, mais aussi de la défiance envers la science et la technologie. Et puis il y a une radicalité qui interroge à l'heure de Black Lives Matter, des luttes féministes. Le vivre ensemble est-il une illusion? Peut-on réellement convaincre ses adversaires politiques? C'est le genre de question qu'on se pose en lisant House of X.
Mais non, là, ça change de Margerin. Est-ce que c'est une lecture accessible?
Alors, je vais être honnête, c'est pas le comics le plus simple que je vous ai recommandé dans le studio. C'est assez exigeant parce que Jonathan Hickman, en fait, joue sur plein de temporalités différentes. Ça pousse assez loin dans le territoire de la science-fiction. Par exemple, dans House of X, eh bien, il y a une histoire en l'an 0, une histoire en l'an 10, une histoire en l'an 100 et une histoire en l'an 1000. Le tout est entremêlé. Donc, ça vaut le coup quand même d'essayer, je vous rassure, parce que il faut juste s'y mettre un petit peu au début. Mais il faut y aller parce que ça provoque des choses. On n'est pas passif en lisant ces comics. C'est très moderne. Jonathan Hickman, en fait, il a écrit ses comics comme une série télé. Il y a une vision sur le long terme. Un détail dans le chapitre 1, ça peut être la clé de l'histoire 3 chapitres plus loin, par exemple. C'est un espèce de showrunner à l'ancienne. C'est donc un comics virtuose. Vraiment, j'insiste sur tout ça. Il faut faire un petit effort au début, mais vraiment, vous ne le regretterez pas.
Merci beaucoup, Clément Le Sarre. Juste un mot, ça vous tente, Pedro Winter ?
Moi, je suis tombé, le dernier super-héros que j'ai découvert et dont je suis tombé amoureux, c'est Deadpool.
Qui est donc un X-Men.
Voilà, donc je suis pas loin.
Et par vous êtes aussi un gamer. J'ai découvert ça. Vous avez une passion commune avec Clément Le Sarre. Vous étiez à fond dans le skate.
C'est ça.
Vous dites que ça vous a ouvert les yeux, les oreilles. Et vous êtes maintenant mis à un jeu de skateboard sur PlayStation. Alors, je pensais même pas que ce soit possible.
Bien sûr, c'est Tony Hawk.
Ouais, Tony Hawk pro skateboarding. De mémoire. Et ils ont ressorti d'ailleurs qui était un grand classique début des années 2000.
Alors c'est ça, moi j'étais un gamer dans les années 2000, Philippe. Aujourd'hui j'ai 45 ans, donc j'ai d'autres choses à faire.
Mais ça persiste puisque le 1 et le 2 ont été remasterisés. Là ils sont ressortis en août sur la PS4 parce que justement c'est des jeux qui sont indémodables.
Mais j'ai deux doigts de me racheter une PS4 pour jouer à cette version remixée. Quoi.
Ah bon, mais vous savez qu'on est passé à la PS5.
Bon voilà, en plus je suis vraiment à la ramasse moi.
Qui a été présenté ici par Clément Le Sarre. Merci beaucoup Clément.
Merci Clément.
Pedro Winter reste avec nous, à tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
On parle avec Pedro Winter, le fondateur et le patron du label Headbanger, c'est de l'électro française. Et je rappelle notre premier invité tout à l'heure, Alexis Bernier, qui signe avec toute sa bande de Tsugi ce livre Electrorama, 30 ans de musique électronique française. Depuis que vous êtes aux affaires, depuis 15 ans, qu'est-ce qui a changé dans le business, Pedro Winter ? Dans le business ou dans le milieu, dans la musique?
Ce qui a changé, c'est c'est Internet. C'est la façon de communiquer, la façon de produire, de défendre, de distribuer la musique, de l'écouter, de la consommer, de la partager.
Il y a le look aussi. Vous dites que les DJ, maintenant, ils sont tous propres et bien coiffés.
Ah ouais, je dis ça ouais. Je sais pas.
Racontez même, vous dites, sur un CD d'Headbanger, on pouvait me voir, je vous cite, en train de dormir dans un coma éthylique, le visage barbouillé de Salade César.
Ah, c'est vrai ça. Ouais, ça c'est des souvenirs de tournée. Qui n'a pas tourné dans un tourbus et s'est fait bien chambrer ou déguisé ou caricaturé par ses copains?
Oui, voilà. Mais ça n'est pas sur un CD. Personne, à part vous, ne l'aurait gravé sur un CD.
C'est vrai. Et ça c'est notre côté un petit peu nouveau. Vous savez, moi j'ai été fasciné par un groupe américain qui s'appelle les Beastie Boys.
Je me souviens très bien.
Que vous connaissez
The
bien.
The Right to Party.
Exactement. Et voilà. Et nous, on est un peu les enfants des Beastie Boys.
Sur vos années Daft Punk, 96-2008, c'est vous qui aviez eu l'idée des masques? Et des casques ?
Non, absolument pas. Non, moi, j'étais au service de Daft Punk. Il y a plein de fantasmes comme ça. J'ai découvert. Moi, non, j'ai juste été au bon endroit au bon moment. J'avais 20 ans, une bonne énergie. Et pour les masques, non, c'est Thomas Guiman qui a eu cette idée. Déjà, ils ne se montraient pas dans les médias. Ils avaient du mal avec ce rapport-là. Et donc, ils ont eu l'idée, finalement, de se transformer en robot. Et ça a été une plutôt bonne idée, je crois.
Voilà, Thomas Bangalter. Et lui, j'oublie toujours
Guy-Manuel Domem Christo.
Voilà, vous racontez à l'époque, vous 20 ans, vous étiez un radical. Vous racontiez, j'ai retrouvé une interview de vous, vous dites le but du jeu c'était de dire non à tout. Vous aviez rencontré Björk avec Daft Punk, Madonna, Janet Jackson, George Michael. Pour vous, quoi leur avoir dit non? C'était une posture?
Non, c'est absolument pas une posture. C'est là aussi, moi je ne suis que le porte-parole. Quoi. Je n'étais que le porte-parole du groupe à l'époque. Non, c'est absolument pas une posture justement et leur succès.
Björk, Madonna, on dit oui quand même.
Mais après c'est des choix artistiques et finalement le fait d'avoir attendu autant de temps et de sortir Get Lucky avec Pharrell 10 ou 15 ans plus tard a été plutôt comment dire une bonne chose pour ce groupe.
Headbanger, j'en reviens à votre label. J'ai dit 15 ans, en fait, c'est 17 ans. Mais pour les 15 ans du label, vous avez fait un disque assez extraordinaire avec l'orchestre L'Amoureuse. En gros, vous avez fait rejouer des titres phares de Headbanger, mais par un véritable orchestre symphonique.
Par un véritable orchestre, sans instruments électroniques sur scène, sans ordinateur, sans voix. Et l'idée, c'était justement de laisser la place à la mélodie, à l'écriture et au talent, finalement, des artistes du label qui sont capables d'écrire la musique comme on peut l'entendre sur ce disque.
Comme on peut l'entendre maintenant, on va entendre un extrait et les puristes vont reconnaître Cassius, I Love You So. Cordes et des cuivres en guise de synthé, des cordes à la place des corgues. Le mouvement de la techno française et pas seulement, qui se dit inclusive, qui se dit ouvert, qui se dit moderne, il y a quand même une question. Pourquoi il y a si peu de femmes ? Pourquoi il y a si peu de femmes chez Headbanger, par exemple ?
C'est une très bonne question. Je me la pose pas le matin en me réveillant. Ça s'est fait comme ça. On a signé une artiste franco-américaine qui s'appelait Uffy.
C'était la petite amie d'un de vos artistes.
Mais ça n'avait rien à voir. Hein. C'est encore une fois là, c'est un concours de circonstances. Mais je fais pas de casting en cherchant tel ou tel style de musique ou telle ou telle appartenance. Mais effectivement, je pense que ça mérite quoi. C'est une bonne question et c'est un sujet sur lequel on va se pencher pour essayer effectivement d'être un peu plus inclusif chez Headbanger.
On l'a dit, vous venez du skate et vous ne serez certainement pas insensible à cette info qu'on vient d'apprendre. C'est tombé entre cette nuit et ce matin. Aux Jeux Olympiques de 2024, le breakdance va faire son entrée comme épreuve officielle. Souvenir. Vous vous souvenez de ça ?
Herbie Hancock.
Ouais.
Ah bah bien sûr.
Il y a quelque chose qui est en train de changer, non ?
Eh ben, que le breakdance arrive au JO, le skateboard au JO aussi. C'est bien, non, mais le monde change, c'est plutôt une bonne chose. Et nous ne sommes que les humbles témoins et accompagnons ce changement tous ensemble.
Témoins et acteurs quand même.
Témoins et acteurs aussi, on essaye, mais ça c'est l'histoire qui nous le dira, il est encore un peu tôt pour...
Et les photos de fin de soirée que j'aimerais bien voir, c'est vous avez mixé à la fête de la musique 2018 à l'Élysée, invité par les Macron.
C'était très sympa, c'était il y a 2 ans et ils m'ont laissé carte blanche. J'ai invité Kiddy Smile, Chloé, Césaire, Kavinsky.
Non mais ce qui m'intéresse c'est la fin de soirée, ça s'est fini comment ? Avec la César salade sur la figure ?
Non, on a été un peu plus sobre.
Merci beaucoup Pedro Winter d'avoir été avec nous. Je rappelle, Electrorama, 30 ans de musique électronique française et tous les artistes Headbanger, ça se trouve partout. Je le présente bien à l'endroit. Merci d'avoir été avec nous et merci
Philippe pour
cette belle énergie. Demain, on sera avec le chanteur pop Julien Doré pour son dernier album Aimé dans lequel il est question entre autres d'environnement. La pâtissière Mercotte, c'est l'un des visages du meilleur pâtissier sur M6. Elle va nous raconter l'édition de cette année qui a été totalement bouleversée par le coronavirus et notamment pour elle. Nous, on se retrouve demain à 9h, je l'ai dit, maintenant c'est le flash. Il s'installe dans ce studio, c'est Christophe Lamar. Juste après, c'est Anne Romanoff pour Ça fait du bien. À demain, salut, merci.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.